Rebonjour. Bonjour pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Ce matin, je vous ai convaincu d'utiliser Django. Tout le monde utilise Django maintenant. Par contre, il va falloir que je sache qui a déjà fait du Django dans la salle. Déjà, j'aurais dû demander ce matin. Donc, levez la main ceux qui ont fait du Django dans leur garage. Ok. Ok, bon. Ceux qui ont fait un petit truc chez eux en local. Non, mais ceux qui ont fait des gros trucs aussi. Bon, ceux qui ont fait des vrais gros projets. En Django, oui. Ok. C'est pour savoir, pour essayer d'adapter un peu. Donc, je vais vous parler des performances et de la qualité dans Django. Donc, un petit rappel qui marche toujours, c'est que ce soit les performances ou la qualité, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, c'est souvent un investissement, mais tout le monde sait que les clients ont une vision à court terme. Ils voient leur portefeuille, ils voient combien ça coûte et ils n'ont pas forcément envie d'allouer du temps à des tests ou à faire des choses pour avoir de la pérennité au niveau de l'application, parce qu'ils se disent c'est bon, une fois que ça va être en ligne, ça marchera et puis ça suffit. Donc ça, c'est une composante qu'il faut avoir. C'est-à-dire que dès qu'on parle surtout de qualité, il faut pas oublier que ça a un coût. Et même si c'est un investissement, moi je suis convaincu que c'est un investissement utile, mais certaines personnes peuvent ne pas être convaincues de ça. Donc on va commencer avec les performances. Donc, au niveau des performances, la première chose à faire, c'est essayer de détecter à quel niveau est-ce qu'il faut rendre l'application plus performante. Parce que avoir une application performante, c'est pas forcément nécessaire. Si vous avez un serveur dédié sur lequel vous faites tourner un blog, vous vous en foutez d'avoir du cache ou des choses comme ça, hein. Ça va tourner et puis voilà, c'est tout. Si vous commencez à avoir des milliers d'utilisateurs et derrière une base qui a des millions, voire des milliards d'articles, là, ça va commencer à poser un vrai problème de réactivité. Donc, il existe beaucoup d'outils pour tester votre appli, pour la stresser. Je ne vais pas en faire une liste, surtout que ça va encore lancer des trolls. Donc, la première chose à faire, c'est de détecter. Une fois que vous avez détecté quels sont les problèmes dans votre application, vous allez vite vous rendre compte, en général, au début, c'est très facile d'optimiser, après, c'est de plus en plus difficile. Mais donc, au début, vous allez voir qu'il y a des fonctions qui prennent 90% du temps et que c'est là où il faut faire quelque chose. Donc, la deuxième étape, c'est essayer d'évaluer. Essayer d'évaluer déjà si c'est utile. Et ensuite, une fois qu'on a évalué cette situation, on va pouvoir passer à l'optimisation. Donc, l'optimisation, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre des widgets Ajax. Comme ça, vous n'avez pas plus besoin d'être en direct. Non. Moi, c'est là où je vais essayer de réduire un peu pour me focaliser sur Django. Parce que l'optimisation, elle peut être faite à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a de l'optimisation au niveau du JS, de l'optimisation au niveau des CSS, de l'optimisation au niveau du serveur, au niveau de la base de données. Donc, je vais essayer dans cette présentation de me contenter de quelques optimisations pour Django. Après, ça sort un peu du domaine de Django, donc vous trouverez des astuces ailleurs là-dessus. Surtout que je suis un peu en temps limité. Donc, la première chose au niveau optimisation, c'est le cache. Il n'y a rien de mieux. Donc, en Django, qu'est-ce qu'il y a pour cacher des applications? Il y a un cache au niveau de tout ce qui est vu, un cache au niveau des fragments, un cache au niveau plus bas niveau quand on récupère des objets dans une base de données. Donc, il y a plusieurs niveaux de modularité. Il faut pas oublier les processus d'invalidation du cache. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est-à-dire qu'une fois que vous cachez une page, si vous vous mettez à jour avec un nouvel item, il faut que ça soit mis à jour sur la page. Sinon, typiquement, c'est un problème qui se pose quand les gens postent des commentaires ou des choses comme ça et que ça rafraîchit pas derrière. Ils se disent, mais il est passé où mon commentaire? C'est juste que la page est en cache, donc le commentaire n'apparaît pas encore. Et comme ça, les gens, il y en a qui sont un peu énervés, qui en passent 10 d'affilée, 10 fois le même. Et vous allez le retrouver. Donc, le cache, c'est très bien. C'est même ce qui sauve la plupart des applications, mais il faut faire attention pour l'invalider de temps en temps. Alors maintenant, on va parler de la dénormalisation. Parce que, bon, ben, Flickr, eux, ils ont dit la phrase clé. Quand on atteint une somme de données qui est assez importante, on arrive très vite à dénormaliser les données. Donc, typiquement, ben, j'ai rencontré ce problème. C'est-à-dire, essayer de faire de la recherche, bon, dans une base de données, déjà, c'est pas une bonne idée. Mais maintenant, imaginons qu'on essaye de faire de la recherche dans une base de données. Si vous mettez tous les champs que vous voulez chercher dans un même champ, ça va aller beaucoup plus vite. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étonnant que j'ai découvert en faisant des expériences. Et bah, après, on pourra en parler s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais c'est quelque chose qui demande de la dénormalisation parce que vous allez répéter vos données et ça va faire grossir votre base, mais ça va être utile en termes de réponse. De la même façon, si vous, dès qu'il y a des counts à faire, c'est-à-dire que j'avais un projet où j'avais une dizaine de catégories de base, et après ça faisait un arbre, il y avait trois descendances, donc il y avait une centaine de catégories finalement, et vous voulez une vue supérieure sur laquelle pour chaque catégorie vous affichez le nombre d'items. Si vous le faites naïvement, en faisant des counts récursifs sur toutes les catégories, vous arrivez à peu près 1 millier de requêtes pour afficher cette page. Alors ça, bon, j'ai pas expliqué un peu les outils d'analyse au niveau de Django. Il y a pas mal de snippets. C'est des petits bouts de code qui sont sur Django Snippets qui permettent justement de partager ces bouts de code. Et il y a pas mal de snippets pour voir le nombre de requêtes, pour voir quelles requêtes, pour voir si elles sont dupliquées, etc. Donc ça, c'est les outils d'analyse. Ça, si vous n'utilisez pas d'outils d'analyse, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte en local parce qu'en local, ça va relativement vite. Dès qu'il y a 100 personnes sur l'application, là, la base de données, elle fait la gueule. Parce que même si vous avez mis du cache, une fois que le cache est invalidé, ça renvoie 1000 requêtes d'un coup à la base qui pleure. Donc la solution, c'est quoi? La première solution, c'est vous cacher le nombre de données par catégorie au niveau du modèle Django, enfin du manager de Django. Donc ça, c'est intéressant. Et la deuxième solution va être de dénormaliser les données et de stocker directement ce nombre d'items dans la base. Donc là, il faut faire très attention parce que ça veut dire qu'à chaque nouvel item, il va falloir mettre à jour ce petit chiffre. Donc cet int, en fait, dans Django, il y a un phénomène de signals qui permettent de faire des actions automatisées lorsqu'on met à jour ou lorsqu'on crée. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Si vous voulez faire de la dénormalisation, et dès que vous êtes sur des gros projets, ça arrive, bon, je vous conseille de regarder comment ça se passe à ce niveau-là, parce que ça peut être très intéressant. Et surtout, ça vous permet de ne pas oublier. C'est-à-dire que si vous le mettez une fois dans le modèle, ça marche à tous les coups. Si vous bidouillez un peu dans chaque vue pour que ça mette à jour le compteur, immanquablement, vous allez finir par oublier. Non. Bien sûr que non, parce que vous utilisez des tests. La conf de Tarek n'était pas assez longue hier, mais il faut utiliser des tests. Donc, pour les tests. Ah, non, pas encore. Donc là, on a quelque chose aussi qui marche pas trop mal en web. Enfin, on a un peu un inconvénient en web, c'est que tout doit être fait de manière synchrone. C'est-à-dire, l'utilisateur fait une requête, la requête arrive sur le serveur. Le serveur traite la requête, le serveur renvoie une page HTML qui a le contenu de ce qu'a demandé le visiteur. Ça, c'est le workflow classique. Maintenant, vous pouvez essayer de faire beaucoup de choses en asynchrone. Typiquement, tout ce qui est envoi de mail, tout ce qui est crawler des informations un peu à droite à gauche, tout ce qui peut être imaginé sur ce que va faire l'utilisateur à l'action suivante. Vous pouvez le mettre de manière asynchrone et vous pouvez le lancer avant même que l'utilisateur pense à faire cette action-là. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Dans Gmail, ils se servent de ça, il me semble. Si vous passez juste sur les messages, vous allez voir qu'il y a des requêtes qui sont passées au serveur. Je ne sais pas s'ils le font encore, donc je dis peut-être une bêtise. Mais à une époque, quand on passait la souris, ne serait-ce que sur les messages sans les déplier, il faisait déjà la requête pour aller chercher le message. Ce qui fait que quand vous cliquez, vous avez une impression d'instantanéité parce que le message est déjà là. Donc il y a plein d'astuces comme ça. Bon, Ajax, ça fait des beaux effets, mais ça permet aussi au niveau du rendu de l'activité d'une application d'avoir une meilleure expérience utilisateur à certains moments comme ça, pour faire de l'asynchrone. Oui, donc ça rejoint un peu ce que je disais en introduction. C'est-à-dire que on dit toujours, bon, le bon exemple, c'est Ruby on Rails. Là, je peux trop aller tranquille. Hein, il y en avait beaucoup au Rails Camp hier. C'est bon. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que Django, bien sûr, il y a des outils pour le rendre plus performant, mais ce qui est important, c'est ce qui est derrière. Parce que ce qui est derrière, c'est quoi? C'est le serveur qui va le. Si vous mettez 10 frontaux et 50 bases de données, même si Django, ça rame, vous n'allez pas avoir trop de problèmes parce que c'est souvent pas à ce niveau-là que ça coince. Là où ça coince, c'est bah sur la base de données parce que vous allez répliquer, mais même en répliquant, quand il commence à y avoir beaucoup beaucoup de données, ça prend du temps. Et après, ça va être vraiment au niveau architecture de savoir comment est-ce que vous allez architecturer votre application. Donc, pour en revenir à Django, un gros avantage, c'est que ça permet de justement de découpler à ce niveau-là et d'avoir un serveur pour, enfin, un ou plusieurs serveurs pour du SQL, un ou plusieurs serveurs pour servir les pages, un ou plusieurs serveurs pour les statiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est nativement dans le framework. Donc vous n'allez pas avoir besoin de faire de la bidouille pour essayer de d'étendre sur plusieurs serveurs. C'est quelque chose qui est déjà dedans. Alors après, oui, je voulais mentionner au moins une astuce. C'est d'utiliser le tag with parce que en fait ça revient à faire des alias comme en Python, c'est un peu une bonne pratique. Si vous avez une boucle et que vous avez une méthode coûteuse dans la boucle, il est toujours plus intéressant de la sortir. Ça, c'est une règle de base. Maintenant, avec le tag with au niveau des templates, vous allez pouvoir faire ça, c'est-à-dire créer un alias sur une fonction qui est coûteuse. De cette façon, quand vous passez dans la boucle, cette fonction, si elle a déjà été déclarée, vous la recalculez pas à chaque boucle. Voilà, ça devient peut-être un peu pointu, je sais pas. Alors maintenant, comment ça se passe au niveau de l'optimisation? C'est de l'itération. Vous allez passer une première fois, ça va augmenter les paires de 90%, une deuxième fois de 20%, une troisième fois de 3%, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez essayer d'améliorer à chaque fois. Bon, après, vous allez rajouter des serveurs. Vous pouvez rajouter des serveurs. Au niveau de l'optimisation, il y a deux choix. Soit vous êtes riche et vous rajoutez des serveurs, soit vous essayez d'optimiser le code, ou vous essayez de trouver des astuces pour que ça aille plus vite. Il y a des gens qui sont riches. Bah, ils n'ont pas besoin d'optimiser. C'est comme ça. Non, mais blague à part, c'est toujours intéressant même pour comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir optimiser, c'est très intéressant. Enfin, un dernier point, essayer de capitaliser, c'est-à-dire que chaque expérience, même si c'est un échec, c'est une expérience. Donc, essayez de le documenter, essayez de faire partager toutes vos bonnes idées à la communauté. Donc pour ça, il y a Django Snippets qui permet de poster ses bouts de code et ses astuces. Vous pouvez écrire sur un blog pour dire j'ai trouvé ça, c'est génial, faites tous comme moi. Vous pouvez poster sur la mailing list, vous pouvez faire tout ce genre de choses qui sont intéressantes pour la communauté parce que on peut pas toujours travailler dans son coin et rien redistribuer. Voilà, donc au niveau des performances. Je voulais pas aller trop loin non plus. J'essaie un peu d'adapter en fonction des personnes dans la salle. Donc, on va passer maintenant à la qualité. Alors, la qualité en Django, vu que c'est du Python, c'est de la qualité en Python. Déjà, à la base, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, je voulais parler de ça avant. Au niveau de la pérennité d'abord. Au niveau de la pérennité, il faut essayer de comprendre avant de faire de la qualité ce que ça représente la pérennité dans une application web. Une application web, c'est pas fait pour durer 10 ans. Alors, Non, dans l'idéal, on se dit, si, c'est fait pour durer 10 ans. Mais en pratique, il y a très peu d'applications web qui durent 10 ans. Il y a très peu d'applications web qui durent 5 ans déjà. Bon, et si on se fixe 2 ans comme âge d'une application web, vu l'amélioration des technologies et vu la vitesse à laquelle ça évolue, on se dit 2 ans, c'est déjà une bonne pérennité pour une application web. Bon, alors une fois qu'on fait ce constat, c'est assez difficile de se dire finalement on travaille pour du one shot quoi. On fait une appli et puis on la réécrira dans le langage à la mode dans 3 ans. Alors pour essayer d'éviter ça, même si ça dépend pas forcément que de la technologie, pour essayer d'éviter ça. Il va falloir améliorer la qualité de l'application pour qu'elle soit maintenable et pour que dans 2 ans, je puisse me dire, tiens, j'ai envie de rajouter une application à mon projet. Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que la façon dont je l'avais pensé permet de la faire évoluer aujourd'hui? Est-ce que, surtout, si j'ajoute cette application, ça ne va pas casser tout le reste? Parce que le vrai problème, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir de la pérennité sans rien casser. Donc, la première chose, c'est de tester. Parce que si vous ne testez pas votre appli, vous n'avez aucun moyen de savoir si elle casse ou pas. Ou alors vous mettez un petit logo bêta sur votre appli, ça c'est ce qui se fait actuellement, et puis les utilisateurs ils vous disent, ah ben ça marche pas. Bon, non, en fait, ils ne vous disent jamais ça, donc vous analysez les logs et vous voyez toutes les 500 qui sortent. Donc, pour tester en Django, comme c'est du Python, c'est ce que je disais, vous avez juste à utiliser les tests unitaires et les doctests. C'est exactement la même chose, c'est intégré dans le framework. Donc, les tests unitaires, c'est exactement la même chose. Et ce qui a été ajouté, c'est un client pour pouvoir tester justement les vues, parce que dans une application web, on a besoin d'un client pour aller récupérer une URL, faire un post ou un get pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc ça, le client est intégré. Donc vous n'avez vraiment aucune excuse pour pas tester vos applications, parce que c'est en 2 lignes, vous créez un client et vous pouvez taper sur une URL pour voir si ça renvoie une 200, si ça renvoie le bon contenu, si ça renvoie les bonnes variables. Donc ça, c'est quelque chose de très important au niveau de la qualité, et c'est quelque chose qui a été intégré depuis longtemps et qui doit surtout être utilisé. Alors, autre chose au niveau de la pérennité d'une application, c'est de pouvoir découpler la pérennité d'un projet, parce qu'il faut bien faire la différence entre projet et application dans Django, c'est de pouvoir découpler les différentes applications. Donc ça, je ne vais pas pouvoir m'éterniser dessus, il y a un livre qui est en train d'être écrit par James Bennett, qui va être consacré juste à ça. Donc, bon, il devrait sortir en juin, je crois. Mais sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la méthode du tutoriel n'est pas vraiment la méthode adaptée à un projet. Normalement, il ne faudrait pas mettre les applications dans un projet. Donc, une fois que vous avez à peu près compris ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que de cette façon, si vous avez vos applications qui sont complètement en dehors du projet, ça veut dire qu'elles ne dépendent pas du projet. Enfin, vous n'allez pas avoir des problèmes lors de l'import des différents modules, puisqu'elles vont être dans le Python Pass, et donc après vous avez juste à les appeler sans avoir le nom de votre projet en début de chaîne, et donc vous allez pouvoir les redistribuer grâce à Mercurial. Vous allez pouvoir distribuer vos applications qui vont être utilisées par la communauté, ou même pour vous-même, vous allez pouvoir vous créer une bibliothèque d'applications à réutiliser selon les cas. Alors, en ce qui concerne la pérennité, il y a quelque chose d'important, c'est au niveau de la documentation. C'est-à-dire que vous allez être obligé de documenter ce que vous faites. Bon, ça reste du Python. Documenter un peu plus au niveau justement toutes les particularités web qui ne sont pas forcément dans Python. Mais si vous faites des doctests qui décrivent un peu, qui racontent une histoire, ça passe très bien. Et vous pouvez relire vos doctests 6 mois après, vous comprenez exactement ce qui a été fait. Alors, il y a aussi la documentation au niveau du code. Donc là, je vous montre juste un exemple. C'est-à-dire que quand vous avez des templates tags, par exemple, Ça, c'est sur l'écran de gauche. Les docstrings que vous mettez se retrouvent automatiquement dans l'administration de Django. C'est-à-dire que Django inclut la documentation de tout ce que vous faites. Donc ça, c'est très utile, notamment dans ce que je parlais ce matin, c'est-à-dire que si vous avez une équipe qui fait du design, une équipe qui fait du Python, l'équipe qui fait du design et de la CSS va pouvoir aller lire cette documentation sans avoir à vous demander toutes les 5 minutes, mais il y a quelle méthode sur ce modèle? Ou qu'est-ce que je peux utiliser comme template tags pour afficher tel billet? Alors là, je voulais passer rapidement sur un exemple, mais ça va être encore plus rapide que ce que je pensais. Donc je vais vous montrer au niveau de l'itération, justement. Donc une première itération qui est assez naïve, c'est par exemple d'utiliser des URL et de les construire à la main. Donc ça, par exemple, vous allez avoir lorsque vous définissez vos URL, vous allez avoir l'URL qui est décrite. Vous allez avoir besoin de la réécrire dans les gabarits et de la réécrire dans les vues pour lorsque vous en avez besoin. Alors là, il y a un problème parce que vous répétez 3 fois la même chose. Et lorsque votre URL va changer, vous allez devoir parcourir tous vos templates et toutes vos vues pour changer ça. La deuxième méthode, c'est on va mettre une méthode getProfileURL sur le modèle. De cette manière, vous ne réécrivez pas les URL dans les gabarits ni les vues. Vous avez juste besoin de la définir dans le modèle. Mais elle est quand même encore dupliquée entre le modèle et les URL. Et la troisième méthode, qui est forcément la bonne, vous utilisez des URL nommées. Vous spécifiez un nom à votre URL, c'est la première ligne. Et ensuite, lorsque vous définissez getProfileURL, en fait, ça va faire un reverse sur l'expression régulière de l'URL. Et vous n'avez pas besoin de redéfinir cette URL. Vous avez juste besoin de lui passer les arguments et ça va la recréer tout seul. Donc au final, ce qu'on voit, c'est que là, vous définissez à un seul endroit une URL. De cette façon, vous gagnez bien sûr en qualité parce que dès que vous avez besoin de modifier une URL, ben, vous le modifiez à un endroit, c'est répercuté partout. Voilà, donc le but de tout ça, c'est d'être un développeur serein. C'est-à-dire que vous allez être sûr que votre projet fonctionne et tout le monde veut ça. Alors je voulais finir très rapidement sur quelque chose. Sur un slide que j'ai trouvé sur une autre présentation de Cameron Moll. Je me suis demandé si ça s'appliquait aux développeurs. Parce que je trouvais que appliqué aux designers, c'était super joli et tout. Bon, et moi, ce que j'en ai déduit, je suis peut-être moins intelligent que lui, mais j'ai juste eu une seule différence, c'est que le bon développeur, il va être consciencieux. C'est-à-dire que il va avoir un cahier des charges, il va l'appliquer, il connaît Django, il va le faire. Le super développeur, lui, il va être curieux. C'est-à-dire que il va voir un peu ce qui se fait ailleurs. Il va notamment essayer de voir si ça n'a pas déjà été fait, s'il n'y a pas une appli qui existe, si sur Django Snippet, s'il ne trouve pas quelque chose qui permet d'optimiser ses perfs de 80%. Et ça, cette curiosité, vu que vous êtes là, quand même, c'est assez révélateur. Je ne vais pas vous l'apprendre parce que cette curiosité, justement, elle se retrouve dans le fait de participer à des conférences. Et à ce sujet, je voulais remercier l'AFPI pour ça. Et voilà, donc je pense que c'est important au niveau de la qualité d'avoir une certaine curiosité sur ce qui se fait à côté et de faire de la veille techno là-dessus. Voilà, donc maintenant vous avez une application performante et j'attends vos questions. Merci.
J'ai juste une remarque en fait, parce qu'à chaque fois qu'on fait une application web, il y a aussi toute une archi derrière. Mais c'est pas du tout le sujet, etc. C'est juste, il y a itscalability.com où il y a justement quelques exemples d'architecture Django, les choses à pas faire, les choses à faire, et
Tout
vous
à
êtes à y
fait.
aller en fait. Voilà.
Tout à fait. Alors, je voulais pas trop parler d'admin 6 parce que j'aime pas ça. Mais tout à fait, il y a beaucoup de sites qui documentent ce genre de choses. Notamment, la première chose à faire, c'est de mettre les statiques sur notre serveur. Enfin, mais ça, c'est décrit énormément dans le Django Book. Ah oui, à ce niveau-là, je voulais dire que le Django Book est en train d'être traduit et qu'il est quasiment terminé. Donc bientôt, on aura besoin de relecteurs à ce sujet. Donc ça sera une occasion de plus à vous mettre à Django. Et dans le Django Book, il y a un chapitre entier sur le déploiement qui justement fait état de toutes ces particularités.
Côté optimisation pour les performances, quand on a des systèmes de mapping objet, on a tendance à avoir beaucoup de code où les gens finalement font du côté du langage, que ce soit Java, Python ou autre, des choses qui seraient de façon, enfin, qui seraient vraiment beaucoup plus rapides à exécuter de façon base de données. Typiquement des recherches, des tris, des incrémentations ou autres. Est-ce qu'il existe en Django une façon d'envoyer directement du SQL?
Tout à fait,
Pour pouvoir récupérer des résultats.
oui. Un ORM qui permet pas de faire du SQL,
C'est pas bon.
c'est pas un bon ORM. Voilà.
Et
Donc,
j'ai une deuxième chose, dans le modèle Django pour les évolutions, comment il prend quand on fait un modèle en Django,
oui.
typiquement quand on commence une application en prototypage, on va aller rajouter des champs, des choses dans ce genre-là. Comment est-ce qu'il gère ça?
Alors, pour l'instant, il n'y a aucun processus de migration automatisée. Les développeurs ont bien spécifié que c'était très difficile à faire. Rails le fait, je sais qu'il y a pas mal de problèmes, enfin où il y a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc, mais finalement, il y a assez d'outils dans Django déjà pour pouvoir faire la migration à la main sans trop de douleur. C'est-à-dire que les outils qu'il y a en ligne de commande qui permettent de générer le SQL qui va être fait au niveau d'un modèle, c'est-à-dire vous pouvez afficher le SQL qui va être généré à partir d'un modèle. Après, vous pouvez rentrer dans le shell de la base de données en une ligne et après faire un copier-coller de ce qu'il y avait avant. Enfin, ça, faut encore le faire à la main. Mais en général, en étape de prototypage, il y a peu de données, donc c'est facile d'enlever une table. Et après, il y a aussi le phénomène de fixtures, ce qui permet d'insérer des données de manière automatisée lors de l'initialisation qui sont assez sympas pour ça aussi.